J'avais noté ce thème de la réapparition, donc entre Anne, la sœur, Lucie, l'amante, et Berthe Morisot, qui réapparaît littéralement dans les tableaux de Manet, et c'est bien pour ça que Manet est le personnage principal du livre.
Avec Picasso. Là, la question que je me suis posée, d'abord Berthe Morisot, c'est la belle-sœur de Manet. Il est bien évident qu'ils ont eu, à mon sens, une aventure extrêmement intense. Et pour qu'elle reste dans la famille, il était marié avec sa professeure de piano, une excellente musicienne. Il lui a fait épouser, Berthe, un de ses frères. Donc elle restait. C'était devenu sa belle-sœur. Vous pouvez mettre un trait d'union si vous voulez, mais vous pouvez aussi l'entendre comme ça. Mmh. Et donc là, c'est un tableau qui est d'une extraordinaire importance, étant donné la date où il est peint. Il faut toujours mettre les dates en peint. 1872. Manet a été extrêmement choqué par la répression de la Commune de Paris. Il fait le portrait d'une jeune femme en grand deuil, semble-t-il, avec un bouquet de violettes. Le bouquet de violettes a une signification symbolique très forte du côté anarchiste, ce qui est le cas de Manet. C'est un républicain qui croit à la République, avec un tempérament aristocratique anarchiste. Heureusement qu'il avait de l'argent, sans quoi tout le monde se rassemblait devant ses tableaux pour cracher dessus, l'Olympia, le déjeuner sur l'herbe. Bon. Donc, elle est en grand deuil. Il faut imaginer ça, parce que tous les tableaux sont des tableaux d'histoire en même temps. C'est de l'histoire secrète, mais c'est aussi la grande histoire. Elle est en grand deuil, elle porte en elle une finesse, un espoir. Et quand il reviendra, le chant des... le temps des cerises, voilà, si vous voulez. Donc il faut la voir comme ça. C'est-à-dire que l'amour entre ces deux personnes au pinceau implique aussi quelque chose qui retrouve la grande histoire, exactement comme Picasso va la retrouver à travers Guernica, qui va le rendre intensément célèbre dans le monde entier, vous comprenez. Donc, il y a là des histoires d'amour, mais qui sont des histoires aussi dans l'histoire très, très particulières.
Mais ça veut dire quand même que Manet, comme Picasso, ce qu'il peignent, ce sont leurs histoires d'amour.
Ce sont leurs histoires d'amour, il suffit d'énumérer leurs femmes. Alors, on demandait à Manet quelles étaient les femmes de sa vie, il dit celles de mes tableaux. Voilà. En plus, il aurait pu ajouter sa femme, chez laquelle il rentrait tous les soirs très tranquillement, après s'être débordé dans son atelier. Enfin, il rentrait, sa femme était musicienne, il lui demandait de lui jouer du piano. Il a fait installer une barge à Venise pour qu'elle puisse jouer du piano sur la lagune. Vous voyez le genre. Bon, Mary Laurent, Victorine Meurent, l'inoubliable, j'allais dire actrice d'Olympia.
Bon, modèle.
Pour Picasso, c'est aussi très très étrange. Personne n'avait parlé, comme je le fais dans ce livre avant, des sœurs de Picasso. Il y en a eu deux, une qui s'appelle Lola, qui était un peu plus âgée que lui, et une autre qui s'appelait Conchita, qui est morte à l'âge de 8 ans. On a sur ce tableau de l'intensité entre frères et sœurs, ça c'est mon sujet. Donc je l'aborde aussi avec Picasso et à travers ses femmes. Il est très certain que, par exemple, Eva Gouel, photographe, qui est morte en 1914, assez jeune, a été la grande, grande histoire d'amour de Picasso, d'où les tableaux cubistes comme le violon de 1912, qui est un tableau absolument admirable. Donc, qu'est-ce qui se passe entre ces femmes et ces peintres ? Et qu'est-ce que c'est qu'un peintre qui, au fond, ne saurait pas dessiner, ne saurait pas faire une femme, ou serait devenu un accrocheur de tableaux pour des animations culturelles? La question est importante, parce que c'est un sujet dangereux qui a fait scandale du temps de Manet, et Picasso, une vie quand même extrêmement mouvementée.
Mais c'est ça qui vous intéresse aussi, c'est qu'effectivement, ils font scandale. Manet fait scandale. Alors maintenant, on le célèbre, il y a des grandes et très belles expositions au musée d'Orsay.
Mais Frédéric, j'ai vu... Autrefois, peut-être que c'est pire encore aujourd'hui. Les gens se rassemblaient, les bourgeois, les petits bourgeois, qui aimaient les nymphes de Cabanel, des espèces de nymphes emperlousées sur des rochers, comme vous en avez dans les restaurants, des Champs-Élysées sur la droite. Vous savez, bon, c'est-à-dire le kitsch. Bon, les gens.
Sur la droite, c'est le Fouquet, non? C'est ça? Vous venez de faire allusion au Fouquet, là.
Le Fouquet, c'est à gauche si vous remontez
vers. Ah, d'accord, ça dépend du sens, oui, d'accord.
C'est le quick. C'est le quick.
C'est le quick. Oui.
Bon, peu importe. Enfin, les gens se rassemblaient pour hurler au scandale de l'Olympia du déjeuner sur l'herbe. Moi, je les ai vus Au musée, c'est pire. Ils ne voient rien. Ils passent, ils sont aveugles. Le musée est organisé. Vous savez qu'il y a une fringale de musée en ce moment.
Ah oui, ils sont pleins.
Il y a une fringale de musée. Hein, voilà, c'est là. Tout le monde va au musée. Et pour voir quoi? Il faudrait les interroger, vraiment. Parce que moi, j'ai vu qu'ils ne voulaient rien voir. Et qu'ils y allaient pour ne pas voir. C'est pire que de se déchaîner contre. Donc, il n'y a plus de scandale. Il y a simplement l'endormissement, le somnambulisme organisé par le spectacle de la société.
Et en même temps, vous en trouvez quand même du scandale parce que vous rompez quelques lances à propos de Picasso avec un écrivain français qui s'appelle Michel Houellebecq et qui, lui, a le malheur de ne pas aimer Picasso et de le dire. Et là, on peut dire que vous dénoncez assez férocement ce que vous considérez comme son mauvais goût.
Non seulement il le dit, mais il le répète, il le dit dans un roman, il l'a répété à plusieurs reprises, il s'est exprimé. Il trouve Picasso stupide, laid, qu'il n'y a pas rien à tirer de Picasso. Et il aime la peinture, par exemple, de Mondrian, de Kandinsky, ou même de Chagall. Figurez-vous, jusqu'où il va, n'est-ce pas ? Alors, je pose simplement une question, c'est-à-dire, trouvez-moi des femmes chez ces peintres, il n'y en a pas. Donc, c'est très
c'est là que ça se joue, pensez-vous ?
Ça se joue, un peu sur la question sexuelle, c'est évident, là.
Donc, Picasso est trop sexué, il y a trop de femmes chez Picasso pour plaire à Houellebecq, c'est ça ?
Eh oui.
Il y a comme une phobie, là, selon vous.
Eh oui. L'art n'est jamais chaste, dit Picasso. Ou s'il est chaste, ce n'est pas de l'art. Hein ? Voilà. Donc, il y a une intention, évidemment. Écoutez, il faut voir. Alors, les femmes de Picasso, il y a Fernande d'abord, ensuite Eva. Ensuite, vous avez le mariage avec les ballets russes, Olga, qui va devenir petit à petit folle. Après, vous avez Dora Maar, qui est un grand personnage de l'époque. Hein. Et là, l'histoire rentre en masse. Alors, c'est la femme qui pleure. Hein. Dès que je l'ai vue, j'ai su que ça serait la femme qui pleurerait. Voilà, bon, un tableau magnifique qui choque toutes les féministes du monde entier, surtout américaines. Ensuite, vous avez Françoise Gillot qui préfère Matisse, qui flirte un peu, enfin, et qui quitte Picasso au moment où elle le croit fini. C'est beau, cette histoire de Picasso attaqué par les Russes, vous savez, les Soviétiques de l'époque. Hein, il n'y a pas un tableau de Picasso à Moscou, vous comprenez ? C'est très intéressant. Le grandiose génie de Picasso, c'est d'avoir fait semblant d'être communiste pour mieux niquer les communistes. Ouais, bon, l'affaire du portrait de Staline, ça, je passe très vite. Et il s'est mis un soir à Moscou. Il y avait un discours absolument réactionnaire du fonctionnaire local. Et Picasso n'en pouvait plus. Il s'est mis torse nu, comme dans les photos qu'il a faites de lui-même au moment de sa plus grande audace, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, où il se peint torse nu dans son atelier. Voilà. Et alors, après Françoise Gillot, vous avez encore quand même, bon, un défilé, vous avez Jacqueline Picasso. J'ai oublié Marie-Thérèse Walter en passant, elle avait 17 ans. Picasso aurait pu être arrêté pour détournement de mineurs. Il l'a draguée à la sortie des Galeries Lafayette. Voilà, elle était très jolie, très blonde et très jolie.
De la même façon que Manet draguait ses modèles sur les grands boulevards.
Sur les grands boulevards.
C'est assez proche.
Absolument, avec l'anecdote magnifique que je raconte, que racontait Suzanne, sa femme, qui était plutôt ronde, il cherchait les modèles. Voilà, qu'il amenait à l'atelier. Et comme il était brillant, causeur et drôle, il n'avait pas probablement rien à lui reprocher. Voilà. Donc sa femme, un jour, le surprend sur les grands boulevards, du côté du boulevard des Italiens, par là, il cherchait des modèles. Et sa femme dit « Ah, je t'y prends !» Et alors, c'est elle qui raconte l'anecdote, et Manet le sentir en lui disant « Oh, pardon, je croyais que c'était toi
!» Ah, c'est bien trouvé.